6h.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et à 6h, le premier journal est présenté par Elham Medjahed. Bonjour Elham.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. À la une de cette édition, l'attaque hier soir près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Bilan 7 morts et 10 blessés.
On parlera également de cette nouvelle menace de grève en France des médecins libéraux. Ils fermeront leur cabinet le 14 février prochain.
Direction ensuite Stockholm pour le mondial de handball. Retour sur la victoire écrasante des Français face aux Suédois. Les Bleus affronteront le Danemark demain en finale.
Robe blanche, pièce montée, faire part, on vous emmène. Je vous le disais, au salon du mariage dans la prochaine demi-heure. Il se tient ce week-end à Paris. À ne pas manquer également l'interview du fondateur Stéphane Seban. Et puis évidemment, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Vincennes. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Eh bien, c'est gris sur les trois quarts de la France aujourd'hui avec des températures froides cet après-midi entre 1 à Guéret et 9 à Montpellier. Et ce matin, entre moins 6 à Manosque et 3 à Bordeaux.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal. Et là, on commence donc avec cet attentat terroriste à Jérusalem-Est, condamné par Paris.
La France se dit horrifiée par cette fusillade qui a éclaté le jour des commémorations internationales des victimes de la Shoah. Un homme armé a tué hier soir 7 Israéliens près d'une synagogue au moment de la prière. Selon les autorités, l'assaillant neutralisé est un Palestinien de 21 ans. Dernier épisode donc d'une longue série de violences dans la région. Le récit d'Ariane Ménage.
Les prières du Shabbat s'achèvent, les fidèles sortent de la synagogue quand un homme ouvre le feu sur les passants. Selon la police israélienne, l'auteur de l'attaque tente de prendre la fuite en voiture avant d'être abattu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Sécurité, figure de l'extrême droite, se rendent sur place pour Israël. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de ces dernières années. Sans en revendiquer la responsabilité, le djihad islamique et le Hamas saluent cette attaque. Ils semblent la lier aux violences qui ont marqué la région ces trois derniers jours. Jeudi dernier, 9 Palestiniens ont été tués dans un raid de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie. En représailles, des roquettes ont été tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza, entraînant un bombardement de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne vendredi matin. L'autorité palestinienne a de son côté mis fin à sa coopération sécuritaire avec l'armée israélienne, une première depuis 2 ans.
Le président américain a de son côté appelé le premier ministre israélien Joe Biden à assurer le soutien des États-Unis après cette attaque.
L'actualité en France à présent est l'âme. Les médecins libéraux vont une nouvelle fois fermer leur cabinet.
Oui, une journée de mobilisation est annoncée pour le 14 février. Les négociations entre les syndicats et l'assurance maladie sont au point mort depuis une semaine. Les médecins libéraux demandent à la première ministre Elisabeth Borne de débloquer la situation. Pour éviter un échec total, ils veulent une enveloppe financière supplémentaire. Le collectif Médecins pour Demain veut obtenir une revalorisation du prix de la consultation. Au cœur des négociations également, le projet de loi RIST qui permet aux soignants non médecins d'effectuer de nouvelles tâches. Le docteur Mokhtaria Alikada nous explique pourquoi elle s'oppose à ce projet.
Une compétence médicale, ça s'acquiert. Ça ne se transfère pas parce que les études des kinés, des pharmaciens et des infirmières à pratique avancée ne sont pas du tout faites pour que ces professionnels de santé puissent accueillir les patients en accès direct et prescrire. Il peut y avoir des diagnostics manqués, il peut y avoir vraiment une perte de chance pour le patient qui ne bénéficiera pas de l'expertise d'un médecin. Il est assez simple d'augmenter les effectifs des médecins, il faut revaloriser et donc les médecins qui verront leur honoraires revalorisés s'installeront et ça va créer un choc d'attractivité et là, nul besoin de transférer des compétences qui ne se transfèrent pas.
Des propos recueillis par Yasmina Katou du service Société d'Europe 1.
6h04 sur Europe 1, alors il sait ou elle s'est peut-être mis à genoux, a pris votre main, vous a demandé de l'épouser. Ça tombe bien, Elham, on vous emmène au salon du mariage qui vous séporte à 10h hein, tout à l'heure.
Oui, robe de mariée, faire part, pièces montées, décorations de rêve, tout est réuni en un seul lieu ce week-end. Et un métier nous interpelle particulièrement, celui de wedding planner, majoritairement occupé par des femmes. Il y a très peu d'élus pour ce métier, on en compte 900 à peine à travers toute la France, Delphine Schiltz.
C'est le chef d'orchestre du mariage. Mais loin des paillettes, la wedding planner gère des contrats, des budgets et des rétro-plannings. Virginie Mansiou exerce ce métier depuis 14 ans. Elle a marié 200 couples grâce à ses tableurs Excel.
C'est beaucoup de travail, c'est un métier qui occupe vraiment à temps complet.
Comptez 100 à 150 heures de travail d'organisation, du faire-part au dragé et le prix plancher. 3 500 euros, indique Virginie Mansiou, auteur d'un livre blanc de la profession.
Si on facture en dessous, le wedding planner peut fermer, potentiellement peut laisser des couples sur le carreau.
D'autant que la wedding planner n'est plus un simple carnet d'adresses.
On sent que les mariés ont vraiment envie d'organiser un événement à part entière.
Des virées en petit train touristique avec les invités, un vin d'honneur dans le jardin d'un musée, des cérémonies à l'étranger.
Les couples nous demandent effectivement d'être créatifs, donc de se renouveler à chaque fois pour ne pas avoir le même mariage que d'autres personnes.
À elle seule, une wedding planner organise en moyenne 10 à 12 mariages par an.
Voilà, le salon du mariage, c'est donc jusqu'à demain soir au parc des expositions Porte de Versailles à Paris.
Et je reçois le fondateur et organisateur à 6h20 sur Europe 1, Stéphane Seban. On passe au sport avec la France qui est en finale du championnat du monde de handball.
Oui, les Bleus se sont imposés hier soir 31-26 face au pays hôte, la Suède. Une victoire sans appel après un match maîtrisé de bout en bout. Martin Lange.
Oui, on leur avait promis l'enfer, 20 000 supporters suédois en transe, mais les Bleus ont rapidement éteint la Tele 2 Arena de Stockholm. Une défense de fer, un gardien Vincent Gérard en état de grâce et des leaders au niveau, à l'image de Dikamem, auteur de 5 buts.
C'est clair qu'on avait des très fins ce soir, on savait que ça pouvait être quelque chose de spécial de gagner ici et c'est chose faite, donc vraiment très très content de la victoire.
Mais pas d'effusion de joie au coup de sifflet final, hein, les Bleus sont en mission, ils veulent cette 7e couronne mondiale, Nedim Remili.
La seule chose pour laquelle on est venu, c'est accéder à l'or, on y est, plus qu'un pas, plus qu'un step, plus que deux jours. On est prêt pour ça, on a montré qu'on avait les ressources, à nous de continuer comme ça, espérons qu'on puisse retrouver peut-être un peu de fraîcheur de certains gars qui ont eu des pépins physiques et j'espère à nous ce titre, en route pour le titre en tout cas.
Mais pour cela, il faudra vaincre une autre vieille connaissance, le Danemark, double champion du monde en titre, rien que ça.
Oui, une finale France-Danemark qui se jouera demain soir, un match à ne pas manquer sur Europe 1, radio officielle des Bleus pour ce mondial de handball, coup d'envoi à 20h30.
Et c'était le journal d'Elham Medjahed. Merci Elham. Valérie Darmon sur Europe 1, vous nous dites à 6h07 qu'il fait toujours aussi froid.
Voilà, sans aucune surprise, les minimales qui sont comprises entre moins 1 et 2 en pleine, avec des gelées qui restent marquées près des reliefs. Ce matin, 6 degrés annoncés à Brest et à Perpignan par Météo France, 5 à Toulon et Nice, 4 à Bordeaux et Cognac, 3 degrés à Rennes, à Toulouse, à Montpellier, à Bourges, à Lille, 2 à Paris, 1 à Caen, moins 1 à Besançon, moins 2 à Aurillac. Les maximales, elle plafonne entre 2 et 4 en général sous les grisailles. On attend 5 à 8 dans l'ouest et 7 à 13 autour de la Méditerranée.
Alors j'ai lu qu'à Paris, on n'avait pas vu une minute de soleil depuis quasiment une semaine. Est-ce qu'il va revenir ?
Eh oui, il va revenir cet après-midi sous forme d'éclaircies. Éclaircies seulement. Ah oui. Hein. Ou alors vagues trouées ensoleillées, c'est comme on veut, on choisit. Hein. Des pays de la Loire et de la Bretagne aux portes de Paris et Hauts-de-France, là on peut espérer donc ces fameuses trouées ensoleillées entre les nuages. Évidemment, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Pour le reste, le ciel est tout de même gris ce matin. De l'île à Biarritz, il va le rester cet après-midi. De Reims à Saint-Jean-de-Luz. Quelques flocons touchent toujours le centre et puis l'Auvergne. Et puis la grisaille qui persiste sur le Grand Est jusqu'aux plaines de Rhône-Alpes. Seuls les sommets sont au soleil. Et puis les régions méditerranéennes et les Alpes du Sud qui profitent aussi de ce soleil voilé.
Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 6h30 dans une petite dizaine de minutes sur Europe 1. Stéphane Seban, président du Salon du Mariage, sera mon invité. Puis dans un instant, évidemment, votre rendez-vous habituel, les pronostics de Thierry Léger. À tout de suite.